Je prends le train en marche, puisque vous avez commencé et que nous allons réfléchir sur l'esprit dans lequel on doit faire ses études. C'est ça le principal du reste. L'esprit, l'intention, la finalité qui commande tout notre travail. J'ai écrit le livre sur les trois sagesses comme étant ce qui, à ce moment-là, et encore maintenant, me montre comment on découvre l'esprit de saint Thomas. Saint Thomas dit ça très simplement, les trois sagesses. Mais c'est capital, puisque la sagesse, c'est ce qui finalise. La science ne finalise pas. C'est un moyen pour contempler. C'est un moyen extrêmement pratique. Face aux sagesses, il y a les mathématiques qui veulent toujours avoir le droit de sagesse. C'est très curieux et c'est très étonnant, ça. Et je crois que dans le monde d'aujourd'hui, c'est les mathématiques qui dominent. Les mathématiques ont pris la place de la sagesse. Et ça, on doit être très attentif à ça. De sorte qu'aujourd'hui, on doit avoir un regard très net sur les mathématiques et un regard très net sur la sagesse. Et ce regard très net, on va essayer de bien prendre le départ. Parce que c'est important de bien prendre le départ. Mais il faut y revenir tout le temps. Donc, le début, c'est pour ceux qui viennent d'arriver. Le début, c'est encore pour ceux qui ont été là l'année dernière. Et le début, c'est encore pour moi. On recommence tout le temps, parce que le propre de la sagesse, c'est ça. On recommence tout le temps. C'est pour ça que la sagesse ne vieillit pas. Les sciences vieillissent, mais la sagesse ne vieillit pas, parce qu'elle est au-delà de notre corps. Elle touche notre âme dans ce qu'elle a de plus profond. La sagesse, c'est pour notre âme. C'est pas de la gymnastique. C'est pas de la virtualité. C'est pas de la science. Elle présuppose tout ça. On ne peut pas faire de la sagesse quand on est dans son berceau. On fait la sagesse quand on entre dans la congrégation Saint-Jean. Congrégation Saint-Jean, en dessous, trois sagesses. On se met à l'école de Thomas d'Aquin. On se met à l'école d'Aristote. On se met à l'école de Marie. Parce que aux trois sagesses, Marie, elle nous commande, elle commande la sagesse mystique. Thomas commande la sagesse théologique. Aristote commande la sagesse philosophique. Il faut avoir des maîtres. Ils sont pas si mal, hein. Ils se reconnaissent dans le ciel. Je suis persuadé qu'ils se sourient maintenant. Marie qui sourit à Thomas d'Aquin. Tu as eu raison. Et Thomas d'Aquin dit à Aristote dans son coin, vous étiez en avance. Parce qu'encore maintenant, vous êtes celui qu'on regarde. C'est chose très curieuse. Hein. Hegel, le grand philosophe de notre époque, il salue Aristote comme l'unique philosophe. Donc on n'est jamais en retard quand on revient à Aristote. Jamais en retard. Vous êtes en avance. Si vous mettiez à l'école de Sartre, vous seriez très vite en retard. Parce qu'il est terriblement temporel. Tandis que se mettre à l'école d'Aristote, c'est se mettre au-delà du temps. Au-delà de l'histoire. Il n'y a pas de sagesse historique. On se met au-delà de l'histoire, parce qu'on regarde, l'être. Platon regarde les idées magnifiquement, hein, merveilleusement. Hegel regarde la pensée, sa pensée, qu'il considère comme celle de Dieu. Vous voyez, l'analogie de similitude est devenue une analogie d'être. C'est ça l'erreur de Hegel. Il a dit des choses très intéressantes, mais il y a une confusion. L'analogie de similitude est devenue... Or, cette erreur-là se retrouve aujourd'hui comme étant la grande erreur de beaucoup de théologiens. Bicêtre disait, le plus grand danger actuellement pour l'Église, j'ai assisté à une fois une audience de lui, c'était des philosophes et des théologiens. Il a dit, la grande erreur aujourd'hui, pour l'Église, c'est le fidéisme. Et il avait bien raison. Le fidéisme, c'est la confusion de l'intelligence et de la foi. Alors, petite erreur pieuse, hein. C'est très pieux de confondre l'intelligence et la foi. C'est merveilleux. Comme ça, pas de danger d'être orgueilleux. Confondez l'intelligence et la foi. Ça a l'air d'être très pieux. Et c'est terrible. Parce que la foi ne nous demande pas d'être paresseux. La foi nous demande d'être petit enfant de Dieu. Mais de Dieu. Pas petit enfant d'Aristote. Petit enfant de Dieu. Pas petit enfant de Hegel. De Dieu. Mon intelligence ne peut se soumettre qu'à Dieu. C'est la seule autorité que l'intelligence accepte. Parce que l'être n'est pas une autorité. La grenouille qui existe, elle n'est pas une autorité. Il n'y a que Dieu qui est autorité pour mon intelligence. Dieu seul peut être autorité pour l'intelligence. Et c'est ce qui arrive dans la foi. C'est que je reconnais l'autorité de Dieu. Et je me soumets à cette autorité, mais à personne d'autre. La foi, l'intelligence a une noblesse divine. C'est Dieu seul qui la crée. En tant qu'intelligent, je suis fils de Dieu. Pas de la même manière qu'au point de vue surnaturel, hein. Mais en tant qu'intelligent, j'obéis directement à Dieu, je peux obéir directement à Dieu. C'est la noblesse de l'intelligence. Et au-dessus de l'intelligence, il y a la foi. Alors voyez, Dieu exerce sur moi deux autorités que je ne confonds jamais et que je n'ai pas le droit de confondre. il exerce auprès de moi l'autorité du Créateur. Et mon intelligence se soumet à Dieu Créateur. Dieu seul crée. L'être, la réalité, Dieu seul crée un être. L'homme ne peut pas créer un être. Il crée des relations. Il crée des relations, l'homme. Il réalise des relations. Et très souvent, on considère que ces relations, c'est l'être. On doit toujours bien distinguer l'être et la relation. Ce qui n'est pas commode, mais quand même qui est très important à bien voir. Dieu seul crée l'être. Et en tant que créateur, mon intelligence se soumet à Dieu créateur. Et l'intelligence, en reconnaissant ce qui est, reconnaît par là l'autorité de Dieu seul. Puisque Dieu seul crée ce qui est. Et dans la foi, je reconnais Dieu comme Père. Père de mon âme, Père de ma vie. Et m'appelant à vivre sa propre vie. Dans l'Écriture, vous voyez toujours que la paternité est liée à l'héritage. Ça m'avait beaucoup inquiété, ça, pour voir exactement les liens qu'il y a entre les deux. Le père est celui qui éduque son enfant et lui donne son héritage. Un père peut déshériter ses enfants. Tout en étant père, il peut déshériter si l'enfant n'est pas digne. L'héritage regarde la finalité. Et Dieu nous donne son héritage. Son héritage, c'est lui. Dieu est le seul être qui est à lui-même et par lui-même son propre héritage. La vie de Dieu, c'est de se connaître, de s'aimer. Et Dieu nous fait partager sa vie dans l'ordre surnaturel. Et dans l'ordre surnaturel, nous partageons la vie de Dieu. Et nous sommes appelés au même héritage. Et ça, c'est extraordinaire. Au plan surnaturel, nous sommes appelés à vivre éternellement de Dieu, comme Dieu lui-même vit éternellement de lui. Et au point de vue surnaturel, nous vivons éternellement de Dieu. Nous sommes appelés à ça. Nous avons le droit de vivre de la vision béatifique. Donc, nous avons, nous, une autorité subalterne, mais qui est Thomas d'Aquin. Celui qui serait contre Thomas d'Aquin, il n'y a pas de place pour lui à Saint-Jean. Je le dis tout de suite, hein. Il n'y a pas de place pour lui. À Saint-Jean, nous obéissons à l'Église. Et le Saint-Père, dans son encyclique, Fides et la foi et l'intelligence, Fides et intellectus et ratio. Cette encyclique, il faut la lire chaque année. Pour que votre intelligence se soumette vraiment à l'autorité de l'Église. C'est pour être fidèle à l'Église au pape actuel, qui est celui qui a parlé de Thomas d'Aquin de la manière la plus explicite, celui qui a reconnu la grandeur de Thomas d'Aquin d'avoir fondé une théologie sur la foi qui se sert d'une intelligence qui cherche la vérité. Et seule une intelligence métaphysique qui recherche l'être dans les réalités, toutes les réalités, le crapaud et nous-mêmes, en voyant toute la différence, hein, sans confondre. Seule une intelligence qui cherche l'être peut être au service de la foi. Ça, c'est capital de comprendre ça. Et c'est le génie de saint Thomas d'avoir mis ça en lumière. C'est le génie de saint Thomas. Et de l'avoir vu avec une telle netteté. Donc, nous ne sommes thomistes de saint Thomas que si nous voyons bien cela. Tant que nous n'avons pas vu ça, on cherche. C'est normal qu'on ne voit pas au début. Au début, vous faites confiance à l'Église, vous faites confiance au pape. Et vous dites l'encyclique du Saint-Père, la foi et la raison. J'y crois complètement. Puis petit à petit, cette encyclique, ah, je la comprendrai en profondeur. Et je verrai ce que ça signifie. Et je verrai que les études que nous faisons ici, que les études que nous faisons à Rimont, c'est d'essayer de vivre vraiment de cette encyclique. C'est difficile, parce que très peu en vivent, même dans l'Église. Très peu. Ça n'a pas fait l'encyclique du pape sur le moment, ça a agité un tout petit peu, mais ça n'a pas réformé les études que nous faisons en philosophie, en théologie, alors qu'elle devrait être là pour que nous essayions de nous adapter pleinement à ce que le Saint-Père nous a donné. Et le Saint-Père l'a donné parce que, après avoir fait une enquête sur les études en Italie, il a vu que la philosophie de l'être, la philosophie aristotélicienne, n'était plus vraiment enseignée. Et par le fait même, si la philosophie n'est plus en acte, la théologie ne sera plus en acte. On fera une théologie historique. On fera l'histoire de la théologie. On verra qu'au Moyen-Âge, saint Thomas était très bien. Qu'à notre époque, saint Thomas est moins bien. Le passage de la cathédrale à l'église des Voltibourg. Nous sommes tous d'accord de voir les différences entre une cathédrale et la cathédrale des Vriptibourg, cathédrale du Moyen-Âge. Et on croit que la théologie était style cathédrale au Moyen-Âge, Thomas d'Aquin, très belle cathédrale, magnifique, et vitraux splendides, extraordinaires, les vitraux de Chartres, très beaux. Hein? Mais aujourd'hui, ah, Évry-Thibourg, faisons une cathédrale cassée, parce qu'on n'est plus au Moyen-Âge. Et donc la théologie change. Dieu a changé. Il y a le Dieu du Moyen-Âge, et puis il y a le Dieu du XXe siècle, du XXIe siècle. Il a changé. Si Jésus reviendrait, Jésus revenait maintenant, mais il ne parlerait plus de la même façon. Parce qu'il serait à mettre en honneur les mathématiques. Il dirait, il faut tous, référence à ça. Il ne faut pas les quitter. Vous voyez, au fond, hein, au-dedans de nous-mêmes, hein, si nous sommes vrais avec nous-mêmes, nous sommes un petit peu atteints de ça. Il faut être de son temps. Oui, il faut être de son temps. Dieu, mais il est l'auteur des temps, de tous les temps, donc il me demande d'être de mon temps. C'est sûr, Dieu me demande d'être de mon temps. En tant qu'apôtre, Dieu me demande d'être de mon temps. Le langage n'était pas tout à fait le même au Moyen-Âge maintenant. Au Moyen-Âge, si on parlait le langage d'aujourd'hui, les gens du Moyen-Âge penseraient qu'on parle une autre langue. Ils parlaient latin couramment. Nous avons de la peine de parler latin couramment. Être de son temps, est-ce que c'est encore chercher la vérité ? Alors, je crois que là, il faut être très net. En théologie, on part de la parole de Dieu. La parole de Dieu, au Moyen-Âge et aujourd'hui, est-elle la même ? Est-ce que Dieu du Moyen-Âge, c'est le Dieu encore d'aujourd'hui ? Et Jésus, qui a voulu prendre l'habit de son temps, Jésus ne prendrait pas le même habit aujourd'hui. Mais est-ce que son intelligence serait la même ? Si Jésus venait à notre époque, est-ce qu'il irait de Paris à Marseille sur le dos d'un âne ? Ou est-ce qu'il prendrait le TGV ? Il peut prendre le TGV en cherchant la même vérité. Le TGV, c'est accidentel par rapport à mes études métaphysiques. L'être français a pris l'habit du TGV. La métaphysique doit être à l'allure du TGV. Ah, vous faites la distinction, et nous devons faire la distinction. Est-ce que l'être, la réalité, ce qui est, se modifie en fonction de la manifestation différente ? Est-ce que l'être est relatif au mouvement ou c'est le mouvement qui est relatif à l'être ? C'est très élémentaire, ça. Le mouvement, il est toujours finalisé par l'être, c'est sûr. Le crapaud, il existe en fonction que l'espèce crapaud existe encore. Parce que le crapaud n'est pas éternel. Il n'a pas un tout petit siège dans le ciel. et un crapaud éternel. Ou est-ce que le crapaud, son espèce, est dépendante de ce qu'il est? Est-ce que le devenir dépend de l'être ou l'être dépend du devenir? Vous voyez, on revient à des problèmes très fonciers. Si on ne voit pas ces problèmes-là, c'est ce qui est très intéressant de notre temps. C'est que des problèmes très fonciers qui ont été traités longuement en Grèce, qui ont été traités longuement en Inde, reviennent sous une forme différente. La redingote n'est pas la même. Mais ce que je veux dire, dit l'histoire. Est-ce que l'histoire, c'est le devenir ou c'est pas le devenir? L'histoire, avec un grand H. Est-ce que l'histoire peut nous donner une sagesse? Ah, l'histoire est très intéressante au point de vue de ma prudence. Mais est-ce que ma prudence est toute relative à l'histoire? Ou est-ce que ma prudence est relative à ma finalité? Est-ce que la finalité de l'homme, de saint Thomas, est la même que la mienne? Saint Thomas travaillait pour la vision béatifique. Est-ce que moi, je ne peux plus travailler pour la vision béatifique? C'était bon pour le Moyen-Âge. Je dois travailler pour le TGV. Je dois travailler pour le progrès. Je dois travailler pour ça. Ma finalité est restée la même. J'ai la même finalité chrétienne que l'homme du Moyen-Âge, que le saint du Moyen-Âge, le saint de notre époque, la petite Thérèse de l'enfant Jésus. Elle doit s'entendre pas si mal avec le grand docteur Thomas d'Aquin dans le ciel. C'est assez intéressant de voir le petit dialogue entre sainte Thérèse et Thomas d'Aquin. La finalité est la même, mais le devenir est différent, totalement différent. L'électricité a modifié complètement notre vie. L'aviation qui a commencé au siècle précédent, hein, et qui aujourd'hui devient courante. Est-ce que l'aviation a modifié ma finalité? Ben non. Est-ce que ma finalité est la même quand je suis ici ou quand je suis au Mexique? Est-ce qu'il y a un changement de la finalité? Le parcours est très différent. Au Moyen-Âge, aller au Mexique, ça a duré assez longtemps. Et on ne savait pas sur quoi on tombait. Et aujourd'hui, ça va vite. Alors le devenir est complètement changé. Ah, mais complètement changé. Et l'être est le même. Et la finalité de l'homme est la même. Donc, il y a un problème fondamental qui est toujours le même. L'être et le devenir. La sagesse n'est pas dans le devenir, parce que le devenir change tout le temps. Par définition, il ne serait plus le devenir s'il ne changeait pas. Il se modifie tout le temps. Et il prend des allures très différentes. Si au Moyen-Âge, on avait dit qu'on irait dans la vitesse des avions, dire vous êtes fous. La à la vitesse du TGV. Vous êtes fou. Ah, le conditionnement de l'homme, il est fait par le devenir. Je suis dans le devenir. Point de vue de mon conditionnement. Or, le conditionnement est complètement changé. Est-ce que ma nature humaine a changé? Est-ce que mon intelligence a changé? Est-ce que mon cœur a changé? Mes passions, ah oui, mes passions, c'est très différent. Ah, c'est très différent du Moyen-Âge. Parce que il n'y avait pas les mêmes boissons. Ça a changé beaucoup. Les repas ont beaucoup changé. Depuis le Moyen-Âge. Et on va à une telle vitesse qu'au bout d'un certain temps, on ne prendra plus que des choses qui sont dans des casseroles bien fermées, bien fermées. L'autre jour, j'étais dans un couvent. C'était à Cognac. Alors je suis, je voyais les fruits qui étaient là, juste devant moi, qui avaient une très belle couleur. Puis je me suis mis, au terme du repas, à prendre un de ces fruits. Je me suis dit, ah, ce qu'ils sont bons. Il y a longtemps que je n'ai pas pris un fruit comme ça. Je retrouvais le goût des poires de ma jeunesse. Extraordinaire. Ah, que ces fruits sont bons. Mais là, j'en ai pris un autre. Et j'ai dit, mais au fond, maintenant, on a le goût omnibus de la poire. Parce qu'elle a été cueillie bien avant d'être mûre. Elle a mûri d'une façon artificielle, sans soleil. Et ça, c'est vrai pour tous les fruits. Et c'est vrai pour tous les légumes. On arrive à ne plus avoir de goût. C'est triste, le goût. Ah, le sel reste encore du sel, heureusement. Et au bout d'un certain temps, même le sel va changer. Le sel de la terre ne scellera plus la terre, ou la scellera d'une façon très artificielle. On trouvera quelque chose qui sera plus rapide que le sel. Vous voyez, c'est extraordinaire de voir le changement, la modification d'un être. Mais mon intelligence reste la même. Quand je lis saint Thomas et que j'essaie de le comprendre, je dis bien que j'essaie de le comprendre, quand je lis saint Thomas, je peux lire saint Thomas en vitesse. Je me souviens que le père de haut, mon oncle, il s'est resté parce que il me racontait la plus grande bêtise qu'on disait en face de lui. On disait, tel père est tellement intelligent, c'était un exégète qui connaissait très mal la saint Thomas. Il est tellement intelligent qu'en 8 jours, il pourra connaître saint Thomas. Alors saint Père de Haut disait, c'est la plus grande bêtise que j'ai entendue de ma vie. Dire qu'en 8 jours, il était tellement intelligent comme exégète, qu'en 8 jours, il pourra connaître saint Thomas. Non. Il faut toute une vie pour connaître saint Thomas. Et c'est vrai. On met du temps. Et l'Église recommande saint Thomas. Saint Thomas a fait un acte héroïque dans sa vie. Il a quitté ce qu'on faisait ordinairement, Pierre Lombard. Depuis 100 ans, on travaille sur ça. Et puis il a dit à la Sorbonne qui commençait de travailler, je vais étudier le philosophe Aristote. Saint Thomas ne savait pas le grec. Et comme on avait deviné en Saint Thomas une intelligence remarquable, on a pu traduire le grec pour lui. Et Saint Thomas s'est mis, je ne sais pas quel âge il avait 30 ans, 35 ans, s'est mis à travailler Aristote et à reprendre toute sa philosophie à la lumière d'Aristote. Il a commenté Aristote avec finesse. Et en même temps, forcément, puisque la théologie, c'est la foi qui se sert de la philosophie. Si la philosophie change, la théologie change. Et comme il prenait Aristote et qu'on ne l'avait pas pris jusque-là, d'une manière sérieuse, toute sa théologie a été transformée. Saint Thomas n'a pas eu de successeur. Et alors, c'est toujours très gênant. On n'a plus eu le courage d'aller au philosophe. On a vu la philosophie qui était contenue dans Saint Thomas. Et on a donné la scolastique. Alors vous voyez l'inconvénient de la scolastique, c'est qu'il faut être thomiste pour comprendre la scolastique. Il faut être théologien pour comprendre la scolastique. Or, normalement, la foi vient après ma connaissance naturelle, connaissance divine. Connaissance naturelle, elle est humaine. La connaissance humaine vient d'abord et elle est au service de la foi. Et ce n'est pas la foi qui est au service de l'intelligence humaine. Voyez, dans la scolastique, c'est la théologie qui est au service de la philosophie. C'est terrible, ça. C'est terrible parce que on n'a plus une véritable philosophie. On n'a plus une véritable philosophie. La philosophie doit être le langage naturel de l'intelligence humaine. Le langage naturel. Je n'ai pas besoin d'être croyant pour être philosophe. C'est mieux. Si je suis croyant, j'aurais plus de courage à être philosophe. Mais ça, c'est du côté courage, c'est du côté de la volonté de m'y mettre très à fond, parce que l'Église le demande. Saint Thomas a eu ce courage énorme, et le père Chenu aimait de dire « Saint Thomas a été comme un révolutionnaire complet de son temps ». La Sorbonne l'a condamné. Il ne faut pas l'oublier. On a trouvé que ce que saint Thomas faisait, c'était innommable. Parce qu'il quittait le croyant à Vicenne. Il quittait le croyant pour aller au païen. Quitter le croyant pour aller au païen, c'est pas bien. C'est préférer le païen au croyant. Même si ce croyant n'est pas catholique, mais il est croyant, croyant en Dieu. Tandis qu'Aristote n'est pas croyant en Dieu, il est le philosophe qui découvre Dieu. qui proclame que Dieu est unique en face de tous ceux qui sont polythéistes. Il déclare que Dieu est unique. Le courage de saint Thomas a été énorme. Il faut bien le voir, ça. De revenir à Aristote, d'accepter que la Sorbonne le condamne. La Sorbonne qui commençait. Considérant que saint Thomas faisait là quelque chose, une grave erreur. Nous faisons quelque chose de semblable à Thomas d'Aquin. C'est toujours beaucoup plus facile, hein, parce que nous avons en face de nous Thomas d'Aquin, et on s'appuie sur Thomas d'Aquin, de revenir au-delà de la scolastique à Aristote, pour découvrir une philosophie qui est, elle, directement le fruit de notre intelligence humaine. Le philosophe doit chercher la vérité et la sagesse. Saint Thomas reconnaît, à la suite d'Aristote, que l'intelligence humaine est faite pour la sagesse, naturellement. Toujours avec le secours de Dieu, c'est évident. Mais mon intelligence a soif de la connaissance vraie. Mon intelligence veut connaître ce qu'est l'homme. L'intelligence veut connaître ce qu'est l'univers. L'intelligence veut connaître ce qu'est l'être. Et l'Église actuelle, par le pape, écrit l'encyclique Fides et Ratio pour nous rappeler que la philosophie doit être découverte à partir de la réalité que nous pouvons connaître par nous-mêmes sans la foi, que tout homme est fait pour découvrir cette vérité, que tout homme doit essayer de la découvrir. La philosophie est le bien de l'homme comme homme. C'est le bien de l'intelligence humaine. Mon intelligence humaine se nourrit de la vérité qu'elle découvre par elle-même. Et saint Thomas, en venant à Aristote, nous montre que Dieu, dans son gouvernement divin, avait préparé, d'une certaine manière, l'intelligence à être capable de recevoir la foi. Par l'amour, de se soumettre à une réalité supérieure à toutes les réalités créées, se soumettre à la parole de Dieu. Voyez, il y a deux sources de la vérité. une source naturelle qui est tous les êtres créés, et une source surnaturelle qui est la parole de Dieu. Et il faut distinguer très nettement ces deux sources. Je peux découvrir la vérité à partir de cette source naturelle. Je fais attention à toutes les réalités qui me sont présentes. Et parmi ces réalités, il y en a une particulière que j'aime, c'est la réalité humaine. Je ne vois aucune réalité supérieure à l'homme, au point de vue de mon intelligence humaine. Je n'ai pas contact avec une réalité existence supérieure à l'homme. Contact direct, l'expérience. L'homme, c'est l'autre qui est supérieur à moi. Tout homme que je connais a quelque chose qui est supérieur à moi. Il existe. Son existence, mon intelligence se soumet devant cela. Rien n'est plus grand que l'existence d'une réalité. Et parmi ces réalités, rien n'est plus grand que l'existence de l'homme. Dieu, je n'en ai pas l'expérience directe. Je n'ai pas touché Dieu. Je n'ai pas vu Dieu. Mais je le pose à partir des réalités que je vois, à partir des réalités que j'aime. Je vois que toutes ces réalités existent, mais elles n'existent pas par elles-mêmes, puisque elles disparaissent, elles meurent. Si ces réalités existaient par elles-mêmes, elles vivraient toujours. Tandis que je vois que ces réalités disparaissent, elles ne sont pas donc premières. Elles n'ont pas une indépendance absolue par eux-mêmes. Ces réalités sont donc secondes dans l'ordre de l'être. Dans l'ordre de l'être, vous vous heurtez à votre voisin qui n'est pas vous. Si gentil qu'il soit, il n'est pas vous. Être une unité autre que vous. Donc, dans l'ordre de l'être, vous n'êtes pas premier. L'existence d'un autre homme vous montre que vous n'êtes pas premier. Or, vous n'êtes pas dans votre être. Vous n'êtes pas maître. Parce que vous n'êtes pas comme vous voudriez être. Vous êtes bien obligé de vous accepter. Et c'est pas commode de s'accepter soi-même. Parce que je vois à côté de moi quelqu'un qui est si vertueux, quelqu'un qui est si intelligent, et moi, je fais comme je peux, mais je ne suis pas aussi vertueux, pas aussi intelligent. Pourquoi ? Il n'y a pas de raison. Vous voyez, j'arrive à découvrir que je suis second dans l'ordre de l'être. Je suis limité dans mon être. Et cette limite dans mon être montre que je suis relatif à un premier. Et je découvre progressivement ce premier. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Et je découvre ensuite que ce premier, il m'a parlé. Que ce premier s'est dévoilé à moi. Il s'est révélé. Et il m'a montré que j'étais appelé, si je le voulais, être plus que mon propre être. Je peux participer à sa vie. Et je peux vivre de sa vie. Mais pour ça, il faut croire. Il y a deux sources de la vérité. La réalité, les réalités qui sont auprès de moi. Et puis, cette source toute différente qui vient directement de Dieu. Et Dieu me fait connaître ce qu'il est. Et Dieu me fait connaître ce que je suis. Différemment, il y a en moi deux sources, toutes différentes, par où je peux atteindre la vérité. Mon intelligence, et puis ma foi. Il y a une découverte à faire que nous devons faire chacun d'entre nous. Une découverte de la vie de mon intelligence, de la vie de mon amour, de ma vie propre et de la vie propre de mes voisins, qui, eux aussi, sont comme moi, on arrive à s'entendre. Et puis, cette autre source, toute différente, je peux écouter Dieu qui me parle. Et qui est venu me rejoindre, et qui est venu me rejoindre dans ma misère et dans mes limites, tout le mystère de l'incarnation.